Avoir raison avec Frank Lloyd Wright, une émission proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange. Cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à ce grand architecte et penseur de la ville américaine qui était Wright, un homme à la biographie tourmentée faite de multiples ruptures, dont la plus importante est sans doute ce moment où à 42 ans il quitte son agence, sa première femme et ses enfants pour partir en Europe avec Mame Cheney qu'il épousera par la suite. Puis lorsqu'il se réinvente à son retour en créant Taliesin, un lieu pensé à la fois comme une ferme, une communauté, un atelier et une école d'architecture, rupture encore suivie d'une autre, bien plus dramatique celle-là, lorsque l'un de ses employés met le feu à Taliesin et assassine 7 personnes, dont Mame Cheney. Et on pourrait continuer longtemps comme cela la litanie des chaos dans la vie de cet homme qui prendra pour troisième et avant-dernière femme une morphinomane avec laquelle les choses se termineront également assez mal. Alors pour évoquer une dernière fois Wright et notamment son rapport, vous allez l'entendre, à la modernité et à l'architecture européenne, nous sommes avec vous, Jean-Louis Cohen. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes architecte et historien de l'architecture, professeur à New York University ainsi que professeur invité au Collège de France. Un mot peut-être pour commencer sur la personnalité et la biographie tout de même hors du commun de cet architecte assez extraordinaire, Jean-Louis Cohen. Dans quelle mesure diriez-vous que cette vie mouvementée a pu avoir un impact sur son architecture elle-même ?
Écoutez, Wright se percevait dans la tradition de certains grands intellectuels américains comme un individu dans le monde, mais aussi face au monde. Et donc, son architecture, il la pensait aussi comme une architecture envoyée à la face de tous, comme une architecture unique, expression de sa personnalité. Et donc, elle a participé de ces grands traumatismes biographiques dont vous avez parlé rapidement. Pour la caractériser, cette architecture, je dirais que c'est la réinvention permanente. C'est une angoisse créatrice qui l'amène, non pas à se renier lui-même, mais à se dépasser, à se déplacer par rapport à ses propres positions, à surprendre son monde avec les maisons californiennes du début des années 20, et à le choquer très très profondément, alors que certains le croient mort et enterré, il construit la maison sur la cascade au milieu des années 30. Donc réinvention permanente, provocation à la fois artistique, littéraire et tout simplement posturale, personnelle. Je ne dirais pas qu'il y a du Donald Trump dans Wright, mais il y a un même penchant à provoquer que l'on trouve à la fois. Et c'est sa grande force dans ses écrits, dans ses paroles et dans ses œuvres.
Alors commençons par une question qui paraît simple, mais qui n'est en réalité pas tant que cela. Est-ce qu'on peut classer, selon vous, Jean-Louis Cohen, Frank Lloyd Wright parmi les architectes modernes, étant donné que le mouvement moderne désigne d'ordinaire plutôt une architecture née en Europe et dont Le Corbusier était le représentant le plus célèbre, et en même temps on ne peut pas nier qu'il y a une très grande modernité dans l'architecture de Wright. Que pourriez-vous en dire ?
Il est incontestable à mes yeux que Wright est un des fondateurs de l'architecture moderne. Le terme de mouvement moderne est un terme un peu simplificateur. Il n'y a jamais eu un mouvement, mais plutôt des mouvements. Et en tout cas, si l'on se penche sur l'œuvre des plus grandes figures, de ce qui constitue le noyau de l'architecture moderne, par exemple dans les années 20, que ce soit Gropius, que ce soit Mies van der Rohe, que ce soit Le Corbusier, que ce soit Moïse Ginsburg, en Union soviétique, tous sont des architectes qui connaissent l'œuvre de Wright. Certains l'ont commenté, et certains ont commenté sur son apport à leur propre travail. Donc il a une position qui est instauratrice, qui est inaugurale et qui l'assimile à la génération suivante bien plus qu'à celle dont il est issu, celle de son Liebermeister Sullivan ou celle des architectes qu'il a, comme Richardson, qu'il a observé et dépassé.
Et en même temps, il y a comme un refus chez lui, c'est peut-être son côté dont vous parliez au tout début de cette émission, un petit peu provocateur, maverick, tête brûlée, cavalier seul, qui fait qu'il ne reprend pas un certain nombre des éléments les plus iconiques du mouvement moderne, le toit plat, les pilotis, tout ce qui a été un petit peu théorisé justement par Le Corbusier et consorts. Est-ce que ça n'est pas un apocryphe finalement de la modernité, Frank Lloyd Wright?
Écoutez, moi je me garderais d'assimiler l'architecture moderne aux 5 points de Le Corbusier. Franchement, regardez Aalto, regardez Mies van der Rohe, regardez les constructivistes, regardez les rationalistes italiens. Vraiment, c'est infiniment plus complexe et bien plus riche. Donc je dirais que Wright se situe de plein pied dans ce champ pluriel, pluraliste, de l'architecture moderne. Dans le même temps, clairement, il ne supporte pas d'être dépassé. Il y a une question de génération, il ne supporte pas d'être surclassé, dépassé, notamment aux yeux du public, par la génération qui le suit. Et donc, c'est ce qui va le conduire à taper du poing sur la table et à montrer qu'il est bien vivant et puissant avec la Maison sur la Cascade, par exemple.
Toujours sur l'idée que la modernité, peut-être qu'on peut s'entendre quand même là-dessus, c'est un refus des traditions, des références au vernaculaire. Est-ce que là, on n'a pas une espèce d'ambiguïté quand même de Frank Lloyd Wright, qui lui, pour le coup, s'inscrit dans une vraie tradition américaine qui revient de loin? Et est-ce que là, il n'y a pas justement un rapport spécial à la modernité, Jean-Louis Cohen?
Alors, Wright s'inscrit certes dans une certaine tradition, encore une fois, il est issu de l'école de Chicago, il a beaucoup observé, il connaît bien l'architecture de bois, par exemple, du Middle West, mais dans le même temps, son œuvre se constitue autour d'une référence extrêmement forte au Japon, qui est d'ailleurs un trait qu'il rapproche d'autres modernes. Et c'est la connaissance d'architecture japonaise qu'il a dans le détail de l'art japonais qui va le conduire à rompre avec les stéréotypes américains. Donc c'est une œuvre qui est vraiment originale par les combinaisons de formes et surtout par ce qui est sa principale contribution, c'est-à-dire une invention spatiale qui va totalement transformer la manière de penser les édifices, que ce soit les habitations, les bâtiments religieux ou certains édifices publics.
Qui les transforme comment ?
Alors, Wright est un architecte de l'ouverture, de deux façons, je dirais, de l'ouverture externe des édifices sur leur paysage, l'aspiration à l'horizontalité des maisons sur la prairie, par, je dirais, empathie avec la prairie qui les entoure, mais aussi l'ouverture interne des espaces, le refus du décloisonnement traditionnel, l'introduction d'une fluidité continue entre l'extérieur et le noyau de la maison. C'est une conquête exceptionnelle que l'on retrouve dans le travail, évidemment, de Mies van der Rohe et dans une certaine mesure dans celui de Le Corbusier, qui a bien regardé Wright.
Est-ce que, par exemple, vous pourriez nous dire ce que dans les bâtiments d'aujourd'hui, enfin ce que les architectes ont l'habitude de faire maintenant aujourd'hui de manière un petit peu classique, qu'est-ce qui pourrait découler de cette nouvelle invention de l'espace, de cette fluidité que vous venez de caractériser et qui pourrait descendre notamment de l'architecture de Wright?
Je crois que Wright a brisé les clichés en matière de composition des plans, en matière de... Il a notamment introduit une dimension théâtrale dans ses intérieurs que l'on trouve dans l'œuvre de beaucoup d'architectes contemporains. Je pense à quelqu'un qui n'est pas si facile à première vue de rapprocher de Wright comme Frank Gehry, sur lequel je passe beaucoup de temps en concoctant le catalogue raisonné de ses dessins.
Donc,
je passe
donc l'auteur notamment du musée Guggenheim de Bilbao, tous deux ont construit des musées Guggenheim.
Oui, Gehry, c'est pas complètement hasard si on les rapproche. Mais Gehry, dans les années 50, les premières œuvres de Gehry qui s'insurgent comme, et qui a un aspect imprécateur, je dirais, provocateur comme Wright, Gehry, qui détestait Wright sur le plan politique. Il m'a dit qu'il l'avait rencontré 3 fois et qu'il n'avait jamais essayé vraiment de se rapprocher de lui pour des raisons politiques.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui le dérangeait tellement dans la politique vue par Wright ?
Dans l'Amérique de la guerre froide, lui qui était à l'époque, Gehry, qui était à l'époque plutôt aligné sur la gauche californienne, trouvait que c'était vraiment un réac. Donc, il était...
C'est votre avis aussi ?
C'est plus compliqué. Je crois que Wright avait une vision assez instrumentale de la politique. Il a été tenté par beaucoup de positions. Dont l'aspect le plus délétère de Wright politiquement, c'est sans doute son pacifisme à la fin des années 30. quand il refuse de prendre position contre les nazis. Il continuera à le faire assez longtemps, ce qui le brouillera avec certains intellectuels américains du champ dont il est proche. Je pense à Lewis Mumford. Mais pour revenir à Gary s'est construit en observant le Japon et en observant les maisons de Wright et la manière dont il a volatilisé, je dirais, le bungalow californien dans ses premières maisons doit beaucoup à Wright.
Et donc le Japon, l'inspiration japonaise, c'est toujours le rapport à l'extérieur, c'est la fluidité entre le jardin, les vues qu'on voit de l'intérieur du jardin, c'est ça un peu l'architecture japonaise ?
Alors ça c'est un des aspects de cette architecture. L'autre aspect est plus constructif sans doute, c'est l'architecture domestique japonaise, hein. Je ne parle pas des forteresses, c'est une architecture d'ossature, de squelettes en bois, de cloisons légères coulissantes, d'espaces pouvant être configurés, une architecture dans laquelle l'élément central, l'élément principal est le foyer, dans lequel la maîtresse de maison crée chaque jour une composition florale. Donc le centrage sur dans une perspective théâtrale sur le foyer, c'est une chose qu'on retrouve dans les maisons de Wright, mais on y retrouve dans les maisons de la prairie aussi ce travail sur l'ossature, sur la légèreté constructive qui dérive des expériences des charpentiers américains, mais qui les porte à un autre niveau.
Qu'est-ce que vous appelez théâtral dans l'architecture de Wright ?
Ce qui est pour moi est de l'ordre de la théâtralité, c'est l'organisation des parcours, l'orchestration de l'entrée dans la maison et de la découverte de l'espace principal, le chemin qui vous conduit au foyer, l'utilisation de la lumière artificielle et de façon extrêmement raffinée, et de la lumière naturelle pour créer des effets de clair-obscur, mais aussi pour conduire la lumière à souligner tel ou tel aspect de l'intérieur. C'est une vision qui est extrêmement raffinée jusque dans ses dimensions techniques. Wright était un très grand expérimentateur, comme l'a montré l'historien anglais Rainer Banham dans un magnifique livre qui s'appelle « L'architecture de l'environnement bien tempéré ». Wright était un maître du chauffage, de l'éclairage artificiel, de la ventilation, bref, de tous les paramètres qui permettaient de maîtriser les atmosphères.
Alors l'atmosphère dans une maison Wrightienne, c'est aussi, paraît-il, l'entrée dans un espace assez confiné, des entrées qui ne sont pas forcément immenses, pour permettre ensuite, quand on arrive dans une salle de séjour par exemple, qu'il y ait justement un effet très très impressionnant d'arriver dans un très très grand espace. C'est ce genre de choses, ce genre de parcours presque scénographique qui permettent de créer un décor et une atmosphère spéciale chez Wright.
Alors c'est totalement scénographique et cela va au-delà du décor, car ce n'est pas une question de surface, c'est une question de structure. L'idée est l'orchestration d'une série, d'une séquence, pourrait-on dire aujourd'hui, de perceptions qui commence à l'extérieur de la maison. Si on pense aux maisons sur la prairie, qui sont les plus complexes, les plus cossues, les maisons de la deuxième grande série de Wright dans les années 30, les maisons dites usoniennes, sont moins complexes. Et donc l'idée est de créer une sorte de sentiment d'exaltation lorsque l'on accède aux espaces principaux de la maison. Et donc c'est tout à fait contradictoire avec, par exemple, ce qui se pratiquait beaucoup au début du XXe siècle en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui était la mode du hall anglais sur deux étages, l'idée que l'on entrait par un très grand vestibule. Ça n'existe pas chez Wright.
Alors revenons, si vous le voulez bien, un peu, Jean-Louis Cohen, sur la comparaison Le Corbusier-Frank Lloyd Wright, parce que ce sont quand même deux grands génies de l'architecture. Qu'est-ce que Wright pouvait finalement ne pas apprécier chez Le Corbusier ?
Il trouvait qu'il faisait trop de bruit, et que ce qu'il revendiquait, au fond, il l'avait découvert avant lui. Donc il a été d'emblée extraordinairement jaloux.
Donc Wright a 20 ans à peu près de plus que Le Corbusier.
Alors Wright est né en 69, Le Corbusier 67. Ou 67 justement, il y a une ambiguïté, on ne sait pas trop. Il est intéressant d'ailleurs de voir que ces architectes dominants du mouvement moderne, entre guillemets, ont tous joué sur leur identité. Le Corbusier a changé de nom, Miss signifiait modeste, médiocre en allemand, et il y a ajouté Van der Rohe pour anoblir son nom, et Wright a triché sur sa date de naissance. Donc ils avaient tous un problème d'identité. Mais ceci dit, une vingtaine d'années les séparent. Le Corbusier, qui s'appelle encore Charles-Édouard Jeanneret, découvre Wright alors qu'il est en Allemagne en 1910-1911, c'est-à-dire au moment où Wright est lui aussi en Allemagne. Il découvre la monographie publiée à Berlin sur Wright en 1911. Mais Wright a trouvé que Le Corbusier, dans une certaine mesure, utilisait son travail sans le créditer, occupait la place qu'il pensait devoir être la sienne, celle du numéro 1 de la nouvelle architecture. Et cette jalousie s'exprime de multiples manières. J'en donnerai deux exemples. Le premier, c'est l'article extrêmement méchant et vengeur que Wright écrit lorsque le grand manifeste de Le Corbusier vers une architecture publiée à Paris en 23 est traduit en anglais en 27. Donc Wright dénonce ce livre et considère que Le Corbusier va trop loin dans l'idée de la mécanisation de l'architecture que lui-même Wright a préconisé. Voilà un exemple. Et un autre exemple, c'est un article extrêmement drôle que Wright publie au début des années 50 contre l'unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier en dénonçant le crime des frères suisses. Il pense encore à l'association entre Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret, le crime des frères suisses sur le port de Marseille. Donc il y a une très grande animosité qui n'est pas symétrique. Le Corbusier reconnaîtra toujours sa dette envers Wright et se gardera bien de le critiquer.
D'ailleurs, la première maison de Le Corbusier pour ses parents à La Chaux-de-Fonds a quelque chose qui fait un petit peu penser aux maisons dans la prairie, enfin quelque chose de vaguement Wrightien. Mais ce qu'on comprend dans ce que vous dites, Jean-Louis Cohen, c'est que au fond, c'est moins une question conceptuelle qu'une question de jalousie qui va séparer Wright de Le Corbusier. Est-ce qu'il s'est exprimé, par exemple, je ne sais pas, sur la ville de la Savoie, sur les maisons de Le Corbusier? Est-ce que quand même, il ne trouvait pas justement dans la fluidité entre l'intérieur et l'extérieur, des choses qu'il pouvait trouver intéressantes?
Je pense qu'il était aveuglé. Il était aveuglé par son ressentiment, donc il n'a pas vraiment adhéré à cela. Les architectes modernes avec lesquels Wright a une relation positive, et une relation qui est allée jusqu'à les soutenir, notamment dans leurs entreprises américaines, c'était Miss Van der Rohe, qui l'a parrainé, et Alto après la guerre. Donc quand Miss Van der Rohe arrive à Chicago en 1938 et devient le directeur de l'école d'architecture de l'Armand Institute, Wright le présente lors d'un dîner de gala, le présente à la Bonne Société de Chicago, et il dit « Voici Miss, mon Miss, car sans moi, il n'y aurait pas de Miss ici aujourd'hui. » Dans le même temps, il ne comprend qu'à moitié l'architecture de Miss. Et il a ce propos assez rigolo dans lequel il dit « Il faudrait bien qu'un jour Miss se débarrasse de ces petites croix qui encombrent ses plans. » À quoi fait-il allusion? Eh bien, au support métallique qui précisément permet à Miss de dissocier structure et cloison et donc de créer un espace fluide dans la continuité de ce que Wright a lui-même imaginé.
Donc il ne comprend pas en effet très bien le projet.
Il ne comprend pas complètement.
Mais alors, Miss Van der Rohe, c'est la tradition germanique de l'architecture. Wright est lui-même, s'il a dans son rapport à l'Europe une attirance, c'est avec l'aspect germanique. Il y a aussi quelque chose qui ne lui correspond pas dans le côté latin de l'Europe. L'Italie, pour lui, est un pays trop chargé architecturalement par le passé, la France aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de division comme ça qui s'opère, Jean-Louis Cohen?
Alors, je crois qu'il est intéressant de regarder les choses dans cette perspective, mais je ne me hasarderai pas à parler d'une tradition germanique unique, absolument pas. Dans le cas de Miss s'intéresse à la fois à l'architecture gothique. Il est enfant de Cologne, il a passé son enfance dans la cathédrale de Cologne, qui est à la fois carolingienne et gothique, pour lui c'est très important. Pour lui, la plus grande source de réflexion à Berlin, c'est l'architecture de Schinkel, que l'on ne peut pas véritablement de qualifier de germanique, qui est une architecture obsédée par l'antique. Donc Quant à Wright, il est aussi très bon lecteur de, il est très bon lecteur de Viollet-le-Duc, il est très bon lecteur de Victor Hugo, il s'intéresse à la perspective française sur le gothique. Donc les choses sont, je pense, assez complexes, assez feuilletées.
Mais est-ce qu'il aime Paris? Est-ce qu'il trouve pas quand même que Paris et même les Parisiennes sont un peu trop sophistiquées?
Oui, alors ça, c'est une posture. Wright est tout entier dans la posture, un peu comme Le Corbusier, dans le paradoxe. Donc sa manière de, sans doute Wright est-il plus attiré par Vienne. Hein, il est aussi très intéressé par Vienne et par l'architecture et les arts décoratifs de Joseph Hoffmann. Mais c'est une manière de se distinguer de la parisomanie chicagolaise. Hein, n'oublions pas que lorsqu'il émerge comme jeune professionnel, Daniel Burnham, qui est la grande figure de la profession à Chicago, lui dit « Mon jeune ami, je vous paye 4 ans d'études à l'école des Beaux-Arts de Paris et vous revenez chez moi après ». Il avait perçu le génie de Wright, mais Wright refuse, il ne veut pas aller à Paris. Et Chicago, qui est à la fois centré sur Paris, est aussi une ville où la présence allemande est très importante. En termes de musique, en termes de discours culturel, l'associé de Sullivan, Dankmar Adler, qui est allemand, a publié à l'attention du public américain les bonnes pages de Gottfried Semper, donc de la théorie architecturale de Semper, qui célèbre la Renaissance. Donc les choses sont, c'est une mosaïque dans laquelle Wright est capable de collectionner des tesselles et de les assembler pour créer ses propres motifs.
Parlons un petit peu de l'urbanisme tel que Le Corbusier l'imaginait par rapport à l'urbanisme de Wright, c'est-à-dire Brodecker City, dont on a parlé mercredi, versus la ville radieuse. Est-ce qu'on n'a pas là deux exemples d'une vision quand même du monde assez différente, Jean-Louis Cohen?
Incontestablement, la ville radieuse, c'est un projet que Le Corbusier élabore en 1930. En fait, c'est l'habillage d'un projet qu'il a fait pour Moscou, comme j'ai eu l'occasion de le démontrer. Il s'agit d'abord d'un projet de modernisation radicale, totalement iconoclaste de Moscou, dont il n'aurait pas laissé grand-chose. Mais c'est une ville relativement compacte, moins compacte évidemment que Paris ou Manhattan. C'est une ville compacte avec un centre d'affaires puissant, une très grande hiérarchie, c'est une ville finie qui occupe une emprise délimitée. Brodecker City, ce n'est pas une ville, c'est un principe territorial qui va bien au-delà de la notion de ville. C'est un projet qui urbanise la campagne et sur une étendue potentiellement infinie. Donc s'il y a un autre projet moderne auquel on peut comparer Brodecker City, ça serait plutôt le projet des urbanistes russes tel qu'ils le formulent en 1929-1930, c'est-à-dire d'un territoire qui serait investi de façon extrêmement fluide et décentralisée grâce à l'usage de l'automobile. Et je dirais que à propos de Brodecker City, je ne sais pas si Catherine Momy, qui vous en a parlé, a évoqué cet aspect-là. Pour moi, une des source fondamentale de Brodecker City, c'est Los Angeles. Je dirais que Los Angeles, c'est Brodecker City avant la lettre, c'est-à-dire un territoire urbanisé avec des noyaux distincts et une densité assez faible dans laquelle, du temps de Wright, activité industrielle et agricole coexistaient. Donc c'est un projet qui est fondamentalement américain et fondamentalement lié à l'Ouest américain.
En tous les cas, on pourrait se dire que aujourd'hui, les descendants de ces deux idéologies de la ville seraient Los Angeles toujours ou Phoenix d'un côté, et puis les grands ensembles en Europe. Là, quand même, on a vraiment deux façons de voir l'architecture extrêmement opposées. Est-ce que justement, on ne peut pas retrouver d'un côté une pensée américaine, de l'autre côté une pensée européenne de la ville?
Alors moi je suis totalement critique quant à cette assimilation de Le Corbusier des grands ensembles. Les grands ensembles, Le Corbusier les détestait et ils ne peuvent en aucune manière lui être imputés. Les grands ensembles viennent des théories de la cité-jardin, de la décentralisation métropolitaine, telle qu'elle a été formulée dans les années 20 en Allemagne. Les grands ensembles, ce sont les enfants des cités ouvrières, des ensembles d'habitation de l'Allemagne de Weimar, et pas du tout de l'unité d'habitation de Le Corbusier. À part ça, il n'en reste pas moins un modèle tout à fait particulier, qui a été développé de manière extraordinairement puissante en France grâce à l'intervention de l'État, mais c'est un modèle que l'on trouve dans une très grande partie de l'Europe occidentale et orientale. Il s'oppose évidemment, parce qu'il s'agit d'habitations collectives, de services collectifs, parce que c'est un système articulé sur les transports en commun, en tout cas dans sa vision idéale, il s'oppose évidemment au principe de Brodecker City ou de la Living City, qui est la version qu'en donne Wright dans les années 50, qui est un modèle dans lequel l'automobile est essentiel et dans lequel la densité des habitations individuelles est réduite.
Alors, j'avais envie de parler avec vous de la maison sur la cascade, mais le temps file. Un mot peut-être, parce qu'on n'en a pas tellement évoqué, du Guggenheim. Ça paraît tout de même assez spécial dans l'œuvre de Frank Lloyd Wright. D'ailleurs, il y a un rond, alors que d'habitude, il n'y a pas vraiment de rond, hein, de cette forme-là. On n'en trouve pas beaucoup dans les maisons dans la prairie. Un petit mot sur le Guggenheim, qu'en pensez-vous ?
Alors, le Guggenheim est un coup de génie de Wright. C'est un pied de nez à New York. Vous le comprenez en voyant les photos aériennes de cette grande spirale blanche qui s'oppose complètement, qui refoule en quelque sorte pour s'unir à Central Park, qui refoule le tissu urbain de l'Upper East Side. C'est une forme qui s'épanouit au fur et à mesure qu'on la gravit, et donc elle est à la fois, encore une fois, c'est une affirmation individuelle très puissante contre la ville et contre les modernes plus jeunes, au service d'un propos muséographique qui sera très violemment contesté. Un groupe d'artistes new-yorkais, parmi les plus remarquables, on y trouve Motherwell ou De Kooning, etc., s'oppose à Wright dans un article célèbre du New York Times en disant que Wright imagine un cadre antipathique quant à la présentation de l'art. Donc les artistes sont furieux. Et il est vrai que c'est un musée qui contraint très fortement les parcours de toute exposition, mais qui dans le même temps a été depuis 59 approprié de mille manières, parfois tout à fait exceptionnelles, par beaucoup de scénographes et d'artistes.
Mais c'est sans doute Jean-Louis Cohen, parce que finalement ce qui était important pour Wright, c'était le musée en lui-même. Le musée était l'œuvre d'art. Merci beaucoup Jean-Louis Cohen d'être venu nous parler aujourd'hui de Frank Lloyd Wright. Je signale par ailleurs que vos cours du Collège de France sont disponibles en ligne sur le site de cette institution, et en particulier le dernier consacré à Miss Van der Rohe. C'était Avoir raison avec Frank Lloyd Wright, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Marie-Laure Ciboulet avec à la console Nasser Moussaoui. La semaine prochaine ne sera pas sans rapport avec Wright, puisque Xavier Delaporte vous proposera un Avoir raison avec Ayn Rand, écrivaine américaine qui a fait de Wright son personnage principal dans son roman La source vive. Dans un instant, la suite de vos programmes sur France Culture.